pas coutume, je vais vous commencer par vous faire travailler. L'évangile de Jean est un des évangiles. Il se place en quelle position? Combien y a-t-il d'évangiles d'abord? 4. L'évangile est le 4e. Alors, les catéchumènes, vous pouvez me dire les 3 autres? Marc, oui. Matthieu et Luc. Très bien. Matthieu, Marc, Luc, Jean, pour reprendre dans l'ordre. Et cet évangile de Jean, justement, il est considéré un petit peu à part par rapport aux autres. Cet évangile a été écrit beaucoup plus tard. Et dans son style, il est un peu différent. Vous avez entendu le dernier texte que j'ai lu. C'est pas évident. Jean, c'était un intellectuel. Et en écrivant cet évangile, il a cherché le sens caché de la venue de Jésus sur terre. Il n'a pas voulu seulement raconter sa vie, ce qui avait déjà été fait, mais il a essayé d'en chercher le sens. Ce passage que je vous ai lu en dernier, on l'appelle le prologue, c'est le tout début de l'évangile. Et Jean se demande qu'est-ce que la parole de Dieu ? Ce passage parle de lumière, mais il reste assez obscur. Mais finalement, il en faut pour tous les goûts. 4 évangiles, 4 façons différentes d'annoncer l'amour de Jésus-Christ pour nous. L'évangile de Marc se contente d'annoncer les faits bruts. L'évangile de Matthieu, lui, fait le lien avec le Premier Testament et le Deuxième Testament. L'évangile de Luc, lui, s'adresse plus aux païens, à ceux qui n'avaient jamais entendu parler de la loi de Dieu. Et puis l'évangile de Jean, c'est ceux pour qui réfléchir est important, ceux qui aiment bien se creuser la tête. Et cette diversité n'est pas innocente. Nous sommes tous différents et nous avons tous des besoins différents pour entendre la parole de Dieu. Je suis sûre que chacun de vous ici préfère tel ou tel évangile. Quant aux catéchumènes, les plus grands, avec qui j'entame une deuxième année, je pourrais dire à qui correspond cet évangile de Jean. À Nicolas. Nicolas, toi, tu aimes bien les cultes où on réfléchit beaucoup. Donc tu devrais beaucoup aimer cet évangile de Jean. Et puis cette diversité, elle s'est complétée dans la suite du Nouveau Testament. Il y a encore Paul, avec toutes ses lettres, qui encore annonce d'une façon différente. Il y a Pierre ou encore Jacques. Chacun met l'accent sur une partie de l'annonce du Christ et ainsi nous pouvons tous y trouver notre compte. Et puis bien sûr, au cours de l'histoire, différents témoins sont encore venus ajouter d'autres visages. Jusqu'à aujourd'hui, où dans les communautés différentes, nous annonçons encore d'une façon différente l'amour de Jésus-Christ. Si nous prenons l'exemple d'une lumière, vous avez 2 lueurs là-bas dans la fenêtre. Une lueur est unique. Pourtant, nous la voyons tous différemment. À cause de nos yeux d'abord plus ou moins perçants et plus ou moins vieillissants. Et puis à cause de notre état, au moment où nous regardons la lumière. Nos questions, nos joies, nos peines. À cause de tout cela, une seule lueur nous dira des choses bien différentes. Je me souviendrai longtemps de notre débat sur les bougies dans le cadre de l'aménagement de la salle de prière du nouvel hôpital d'Annecy. Je vous ai souvent parlé de cette salle de prière. Nos frères catholiques voulaient mettre des bougies dans cette salle. Car pour nous, chrétiens, c'est vrai, on l'a dit, la lumière nous rappelle, la lumière que nous donne le Christ, nous appelle à la paix. Mais cela était sans compter la présence et la réflexion de nos amis musulmans. Pour nous, le feu, c'est symbole du mal, nous ont-ils dit. Si vous mettez une bougie dans cette salle, aucun musulman ne pourra venir y prier. Cette petite anecdote, lourde de sens par ailleurs, est vite résolu, car les bougies sont interdites pour la sécurité dans les lieux publics. Cette petite histoire montre à quel point une même chose peut être vue différemment. Dans le premier testament, Dieu donne une seule loi à Moïse. Et ce sont ensuite tous les prophètes différents qui vont l'annoncer dans leur contexte propre. Et les enfants à l'école biblique ont travaillé déjà cette année sur les prophètes. Il n'y a qu'un seul Jésus-Christ, mais de multiples façons de l'annoncer. Dans notre annonce, nous sommes différents dans la forme, mais heureusement unis dans le fond. Notre doyenne, que vous connaissez tous, nous disait « J'en ai vu défiler des pasteurs en presque un siècle, tous différents, mais pourtant, croyez-moi, ils disent tous la même chose. » C'est plutôt rassurant. Un point important aussi à propos de Jean, et le contexte dans lequel il a écrit son évangile. À ce moment de l'histoire, il y a un courant philosophique appelé le gnosticisme. Vous allez en apprendre des choses aujourd'hui. Ces gens-là pensaient tout savoir, et en plus, bien mieux que les autres. Ils décryptaient le sens caché des choses les plus mystérieuses. Et avec la venue de Jésus-Christ, ils ont voulu tout décoder. Et ce monsieur, rédacteur de l'évangile de Jean, qui avait reçu Jésus-Christ dans son cœur, et qui avait également assez d'intelligence pour répondre à ces personnes, a écrit cet évangile aussi pour eux. Le rédacteur se met à leur portée en utilisant leur langage un peu difficile, et en leur disant « non, Jésus n'est pas venu pour décoder, donc seulement pour les plus malins d'entre nous. Jésus est la lumière. » La véritable qui luit sur tout le monde, les petits comme les grands, les justes et les pécheurs, les pauvres et les riches, les intellectuels et les manuels. Quand on veut se faire comprendre par quelqu'un, on se met à sa portée. Et ici, le rédacteur utilise leur langage pour leur montrer qu'ils ont tort. Malin. Voilà l'évangile de Jean. Peut-être que maintenant, vous pourrez mieux l'apprécier. La parole de Dieu dont nous parle Jean, c'est donc Jésus-Christ, qui est descendu pour nous rencontrer et nous habiter. Dieu, pour se faire entendre des hommes et des femmes que nous sommes, a envoyé son Fils nous parler. On appelle cela la parole faite chair. Tournure savante ce matin. Dieu, l'infini et l'éternel, s'est fait homme pour se faire comprendre. Dieu, l'inaccessible, s'est rendu accessible en Jésus-Christ par amour. En plus de nous expliquer tout cela, Jean nous dit autre chose. Jésus est la lumière, notre lumière. Ce thème est repris, vous l'avez entendu dans les premiers textes à plusieurs endroits. Notre texte parle d'un témoin, Jean. Alors là, ce n'est pas le même que l'évangile, c'est très compliqué. Jean, là, c'est Jean-Baptiste, vous savez, celui qui a baptisé Jésus, celui qui a commencé à annoncer la venue de Jésus. C'est pour ça qu'on l'appelle le témoin de la lumière qui est Jésus-Christ. Et nous aussi, aujourd'hui, nous sommes des témoins de la lumière, cette lumière qui nous habite et nous éclaire. Seule lumière. Seul capable d'illuminer nos vies. Lumière venue pour chacun, sans distinction, sans restriction. L'hiver s'approche et les jours diminuent. Et notre résistance aussi. Tout le monde me dit ce matin, je suis fatiguée. Période de crise économique qui se poursuit, dont on ne connaît pas vraiment les répercussions. Période de deuil, de maladie, période où le chômage s'invite dans notre maison, période où nous avons tant besoin de lumière. On peut voir chaque jour de petites étincelles, un premier sourire, un bon moment en famille, une belle histoire partagée, une rencontre interreligieuse riche en partage, comme nous l'avons vécu jeudi. Tout cela, ce sont des étincelles. Mais la vraie lumière reste celle que Jésus-Christ nous donne. Certains, c'est vrai, on ne sait pas comment ils font, on a l'impression qu'ils brillent toujours. Toujours contents, toujours le sourire. On ne se plaint jamais. Vous en connaissez sûrement autour de vous, des gens comme ça. Et nous qui nous disons avoir cette lumière en nous, est-ce que c'est vraiment une évidence? Est-ce que cette lumière réchauffe vraiment nos hivers et éclaire nos nuits? Si nous croyons que Jésus-Christ nous illumine, alors logiquement nous devrions être illuminés. Sans jeu de mots, hein. Si nous pensons avoir en nous cette lumière, eh bien il faut être lumineux. Ça paraît évident ce que je vous dis. Il faut que cette lumière puisse resplendir en nous et autour de nous. Comment témoigner du Christ et de sa lumière si nous sommes tristes et froids? Comment dire que le Christ brille en nos cœurs et nous plaindre sans cesse? Le mois dernier, Pierre Grossin, que vous connaissez tous, votre ancien pasteur, qui est maintenant président du conseil régional, est venu rencontrer le conseil presbytéral car nous traversons une situation difficile au niveau de la vocation pastorale. Dans notre consistoire ici, il y a 8 postes de pasteurs et nous sommes seulement 5. Et notre situation n'est pas isolée. Depuis 2 ans, beaucoup moins de pasteurs débutent chaque année le ministère. C'est vrai que c'est préoccupant. Et Pierre nous a aussi rappelé que c'est à nous tous, localement, de susciter l'envie de s'engager. Si en tant que chrétiens et responsables d'église, nous sommes toujours fatigués, tristes, débordés, comment pourrons-nous donner envie aux autres de s'engager? Et je parle pour moi en premier. Si moi, pasteur de la communauté, je ne souris pas, que tout me semble me peser, que tout est une corvée, comment les jeunes auront envie de s'engager dans cette voie qui a pourtant tant de richesses? Combien de catéchumènes qui ont grandi à vos côtés seront pasteurs plus tard, car ils auront vu en nous briller la lumière et l'auront reçue à leur tour. Les pasteurs ne tombent pas du ciel, ils viennent des églises locales. Le pasteur stressé et débordé n'est pas lumineux et ne rend pas ce qu'il a reçu. Vivre en Christ n'est pas porter un fardeau, mais briller d'une lumière. À nous tous de laisser briller cette lumière qui nous fait vivre. Et c'est en témoignant ainsi que Jésus-Christ transformera les cœurs. Pour terminer, une dernière question. Je suis sûre que vous êtes tous d'accord avec moi jusque-là, et vous allez me dire, mais comment je peux recevoir cette lumière? Comment je peux la faire briller? J'aimerais bien, mais je ne sais pas comment faire. Le dernier texte de Jean nous dit qu'il faut passer par la porte. Chez nous, ce matin, c'est une fenêtre. On n'a pas trouvé de porte. Passer par la fenêtre pour accueillir la lumière. Jésus dit, je suis la porte, je suis la fenêtre. Il s'agit d'entrer en Jésus-Christ pour recevoir sa lumière. Alors on pourrait faire un petit jeu, mettre la fenêtre là et s'amuser tout symboliquement à passer par la fenêtre. On ne va pas le faire. Mais symboliquement, c'est bien cela, un chemin étroit. Entrer en Jésus-Christ, c'est entrer dans sa parole, la lire, la méditer, prier seul et les uns avec les autres. Et par la prière et la puissance de l'Esprit-Saint, la recevoir comme puissance pour notre vie.